au gré du temps. Passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. À vous tous à l'écoute, ici Armand Dubois. Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire de la série Destination Bonheur. Notre invité cette semaine a occupé bien des fonctions au gré du temps. Il amorce sa carrière comme journaliste et dirigera au début des années 60 le journal La Patrie. Ce sera ensuite l'appel de la politique québécoise, où il deviendra député en 1966 et nouera une amitié profonde avec René Lévesque. De 1979 à 1984, il est délégué général du Québec en France et sera fait commandeur de la Légion d'honneur française. On le surnomme également le Robin des banques, après qu'il eut fondé en 1995 l'Association de protection des épargnants et investisseurs du Québec. Il préside aujourd'hui l'Association québécoise des agences de vin, bière et spiritueux et demeure bien sûr une figure encore bien présente de la scène publique. C'est un grand plaisir d'accueillir parmi nous aujourd'hui M. Yves Michaud. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors effectivement, comme je le mentionnais, votre carrière est avant tout celle d'avoir été un journaliste.
Oui, bon, en fait, on pourrait faire des tranches de vie dans ce que vous appelez une carrière, là. Mais en fait, j'étais journaliste, j'étais député et j'étais diplomate. Je dis souvent à la blague, le journalisme m'a appris à aimer les hommes, la politique à m'en méfier, et puis la diplomatie, on en rire, ou à en sourire. En fait, ce sont les trois, et puis finalement, par un hasard, un concours de circonstances, un activiste dans le monde financier, ce que les Américains appellent, en anglais, là, shareholder activist. Mais c'est intraduisible en français parce que si on dit activiste, on a l'air un peu être des terroristes avec des couteaux entre les dents pour dépecer les petits-enfants et tout ça. Alors c'est intraduisible. Alors ces dix dernières années m'ont terriblement occupé et m'occupe encore pour la défense des hommes, des petits, des sans-grade, des sans-défense et ceux-là qui sont littéralement arnaqués par ces corsaires de la finance. Ces bandits cravatés et cette injustice épouvantable quand on voit des salaires pharaoniques, himalayens, choisissez les épithètes les plus grossières, et de gens qui s'en vont avec 50, 100 millions de dollars.
Mais si je peux me permettre, Monsieur Michaud, ce fut le fil conducteur de votre vie, vous l'avez dit. Journaliste, politicien, diplomate, maintenant un peu ce Robin qu'on a surnommé. Dans le fond, vous avez toujours été cet activiste. Quand vous étiez journaliste, vous avez écrit des éditoriaux qui étaient parfois très prenants. À titre de politicien, vous avez fait cette bataille extraordinaire à l'égard de la loi 63 ou contre la loi 63. Oui. Comme diplomate, vous avez tenté du mieux que vous avez pu le faire de positionner la place du Québec sur la scène internationale.
Mais international, c'est beaucoup dire. Hein.
Mais au moins au sein de la francophonie.
Ce que j'ai exercé comme métier pendant 5 ans, c'est délégué général du Québec en France. Hein. Ça s'est à peu près limité à...
Oui, mais il y avait quand même
par la bande,
de...
la francophonie par la bande.
Voilà.
En voyant le président de la République, moi j'ai connu les deux régimes, les deux présidents de la République, Valéry Giscard d'Estaing, dans un premier temps, et après François Mitterrand.
Alors, deux styles différents, bien différents l'un de l'autre.
Oh mon Dieu, oui. Ah, oui. Très, très, très différents. Valéry Giscard d'Estaing est probablement l'homme politique le plus intelligent que j'ai rencontré dans ma vie. Une intelligence fulgurante. François Mitterrand, le plus déroutant. Le plus déroutant.
Dans quel sens?
Mais le plus déroutant avec beaucoup de finesse en même temps, parce que François Mitterrand était un être imprévisible, carrément imprévisible. Hein. Alors, C'était une sorte de sphinx. Était-il socialiste? Était-il radical socialiste? Alors, on peut toujours se le demander encore. Et aujourd'hui, avec l'ouverture que pratique M. Sarkozy, le nouveau président de la République, et quand on voit tous les socialistes qui s'en vont bouffer au râtelier de la droite, on se demande ce que c'est que le socialisme. Enfin, là, on sort de notre débat. Enfin, j'ai toujours été contestataire, je crois. Hein. Je pense que la contestation, le premier livre que j'ai écrit, c'est Je conteste, en 1960, quelque part par là.
Oui.
Je crois que j'ai toujours été... D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. À un dîner récemment, avec des banquiers, justement, bon, un banquier, mais surtout avec une très haute sommité que je nommerai pas, en tout cas, du monde de la finance, et qui m'a rendu une sorte de témoignage, j'étais bien content, en disant, quand vous avez commencé à vous intéresser aux institutions financières, on vous a pris pour un emmerdeur, mais je dois dire qu'après 10 ans, que vous avez rendu un immense service à travers tout le Canada, à l'ensemble des institutions financières qui ont une meilleure gouvernance maintenant grâce à vous.
Bon, alors contestataire, disiez-vous, partisan aussi, la première pièce musicale que vous nous avez apportée, que vous nous ferez découvrir, c'est un vieux chant, le chant du partisan. Pourquoi?
J'ai choisi cela parce que quand René Lévesque venait, il venait souvent manger à la maison, et très souvent René me disait, fais donc jouer le chant du partisan. Parce que il nous racontait qu'en 1943-44, il a assisté à Londres, dans un pub, à la création par Maurice Druon. Joseph Kessel, qui était son oncle, à la création, et une chanteuse, Marley. Et c'est une chanson qui est dure à écouter, mais qui est en même temps très belle. Et je vous dirai après aussi quand est-ce que je l'ai réentendue dans la cour carrée du Louvre.
Yves Montand.
Sur nos plaines. Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Ohé, les tueurs à la balle et au couteau, tu évites. Ohé, saboteur, attention à ton fardeau dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. « Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Oh, oh, oh.
Notre invité cette semaine, Monsieur Yves Michaud. Nous venons d'entendre ce chant du Partisan. Vous aviez une note additionnelle à l'égard de ce chant.
Oui, quand René est décédé le 1er novembre, il y a quelques jours, il y a 30 ans, hein, il y a quelques jours, là, on en a beaucoup parlé.
Il y a 20
le
ans.
Le soir même, il y a 20 ans, oui. Il y a 20 ans, oui. 1er novembre 87. J'étais là, d'ailleurs, à l'hôpital général de Montréal. C'est Jacques Parizeau qui m'avait appelé en me disant, je crois que Monsieur l'évêque, parce que c'est toujours Monsieur l'évêque, hein, c'est, et vice-versa, hein. René tutoyait personne, sauf moi, et il m'engueulait aussi à l'occasion. Hein. Ce chant du Partisan, c'est la dernière chose quand j'ai rendu témoignage à la télévision en disant... Compagnon, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Je pensais à Jacques Parizeau. Et finalement, qui a pris sa place, hein, en 95 et qui était à un mince fil de nous conduire à la terre promise de l'indépendance.
Alors, parlons de cet engagement, de ces années politiques, de ces années auprès de M. l'évêque. Ce furent des années pas toujours nécessairement faciles, vous le disiez vous-même. M. l'évêque avait parfois ses excès de colère. Mais qu'est-ce que vous, personnellement, qui avez côtoyé M. l'évêque et son projet, qu'est-ce que vous en retenez aujourd'hui? Ou que devrions-nous en retenir, ben, quel que soit.
Ce que je retiens, moi, dans... je dis souvent, j'ai 77 ans et demi. Quand on vieillit, on compte à demi. Un peu comme les enfants qui disent 3 ans et demi parce que c'est long. Mais 77 ans et demi parce que quand on a cet âge-là, c'est court. C'est plus court. Voilà. Alors, ce que j'ai retenu de tout au long d'une longue vie, en tout cas, consacrée... consacrée, ça fait un peu le langage clérical, si vous voulez, religieux, hein, consacré à la défense du bien public et aussi à la politique via le journalisme et tout ça. Ce que j'ai retenu de René, il était de la race des grands leaders. Les leaders politiques... montre le chemin de l'avenir. Ils s'enlisent pas dans la gouvernance provinciale ou dans la gouvernance des choses. Alors, l'évêque avait était en symbiose avec le peuple québécois et disait, voilà le chemin. Voilà où nous devons aller. À sa façon, à lui, c'était un communicateur hors de pair, avec un charisme qu'envieraient tous les hommes politiques. Alors, moi, je suis d'une génération qui a connu des grands hommes politiques, d'une taille exceptionnelle. Et je mentionnerai Georges-Aimé Lapalme, le fondateur de la Fédération libérale du Québec, Jean Lesage, Gérard Lajoie, Jacques Parizeau, René Lévesque, libéraux et Parti québécois confondus.
Mais vous étiez de ceux qui pouvaient peut-être se rapprocher de ce que M. l'évêque disait quand il mentionnait que le mépris, c'est le risque, l'inégalité, pardon, c'est le risque permanent du mépris.
Oui. Et puis la tentation du mépris est toujours omniprésente chez ceux-là qui possèdent le pouvoir. Et dans cette portion de géographie qu'on appelle l'Amérique du Nord, eh bien, ceux qui possèdent le pouvoir, c'est pas nous. C'est pas les Québécois, c'est pas ce peuple de langue française. Je déteste le mot francophone, évidemment, je ne l'utilise jamais, alors que tout le monde parle des francophones. Mais dans cette
portion, vous êtes un peu comme Camus, ma patrie c'est la langue française.
Oui, ma patrie c'est la langue française.
Ouais,
et vous avez fait... Alors, je sais pas, Camus l'avait dit, mais beaucoup de gens l'ont dit aussi avec lui. Bien que, dans le cas de René, là, c'est... il est arrivé par... c'était pas un grand héros, si vous voulez, de défenseur de la langue française, parce que il est né à New Carlisle, là où les Canadiens anglais ne sont pas dominants, c'est très agréable de vivre avec eux. René a passé son enfance à jouer avec les petits-enfants anglais à New Carlisle. Il était parfaitement bilingue, René Lévesque. Alors, j'ai vu ça aussi chez Jean-Jacques Bertrand à Cowansville. C'est curieux, hein. Mais si René Lévesque avait été élevé à Montréal, peut-être qu'il aurait été plus, comme Camille Lorrain, par exemple, il aurait été plus engagé, en tout cas, politique et la défense de la langue.
Mais
René savait très bien. Il a dit des très belles choses sur la langue, hein, au fur et à mesure qu'il est entré dans le combat.
Oui, vous avez quand même maintenu le château fort à l'encontre de la loi 63 durant ces années de parlementarisme que vous avez occupé de façon très active avec M. Lévesque contre le projet de loi.
Oui. J'ai été le premier, d'ailleurs, à m'insurger puis à dire à l'Assemblée nationale que je voterais contre la loi 63. Pour une bonne raison, on était dans le Parti libéral et on avait choisi comme programme politique la priorité de la langue française. Or, M. Bertrand est arrivé, l'Union nationale à l'époque, avec une loi qui mettait les deux langues sur le même pied. Alors, mettre les deux langues sur le même pied, c'est mettre les deux pieds sur notre langue. Et il ne peut pas y avoir d'égalité en matière de langue. Le bilinguisme, politiquement parlant, c'est une vue de l'esprit. C'est une fantasmagorie. C'est impossible. Les peuples bilingues, Rémy de Gourmont disait, les peuples bilingues, esthétiques de la langue française, les peuples bilingues sont toujours des peuples inférieurs. Parce qu'on ne peut pas osciller toujours entre deux langues. On a une langue maternelle, la matrice de la langue que l'on possède bien. On peut être bilingue fonctionnel, parler deux, trois, quatre, cinq langues, bien sûr. Mais on a la langue maternelle qui est vraiment... qui est celle qui irradie l'ensemble de notre culture.
Certains ont dit de vous, justement, à cet égard, de la manière dont vous vous portiez défenseur de la langue française, que vous aviez parfois une attitude gaulliste à l'égard des moyens utilisés pour vous permettre de faire avancer la cause de la langue française.
Oh, mon Dieu, gaulliste, là, écoutez, me comparer à un géant de l'histoire.
Mais c'est pas moi qui l'ai dit.
Géant de l'histoire, là, c'est... je suis pas particulièrement humble, mais je trouve que c'est un peu exagéré. C'est gaulliste. Le général avait une certaine idée de la France. Moi, j'ai une certaine idée du Québec. Et René Lévesque aussi, là, Jacques Parizeau. Hein. On n'est pas tout seul. On est quand même quelques milliers. Puis bon.
Alors, nous y reviendrons. Nous enchaînons avec la prochaine pièce. Le temps des cerises. Un mot.
Oh, le temps des cerises. Le temps des cerises, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, on chantait ça quand on était gamin à la bonne chanson, mais c'est un chant révolutionnaire. C'était fait par Jean-Baptiste Clément lors de la Commune en 1870, alors que les communards étaient résistants contre les Versaillais. 1870, la France est vaincue, les Allemands rentrent dans Paris, etc. Et le temps des cerises était un chant révolutionnaire, et c'est lié un peu beaucoup, avec la mort de Pierre Laporte.
Quand nous chanterons le temps des cerises, et guerre au signal, et merle mon cœur, seront tous en fête. quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants.
Notre invité cette semaine à Destination Bonheur, M. Yves Michaud. Nous parlions tantôt de l'attitude gaulliste, mais si nous parlions de Charles de Gaulle, et particulièrement de sa déclaration sur le balcon de l'Hôtel de Ville, il s'est écrit beaucoup de choses sur cet événement historique, parce que nous pouvons bien le dire, c'est un événement qui va demeurer très important dans l'histoire, et qui est un événement de l'histoire récente du Québec. Vous, vous avez vécu ce moment particulier aux côtés de René Lévesque.
Oui, nous étions les invités à l'arrière du balcon de l'Hôtel de Ville, la terrasse de réception de l'Hôtel de Ville. Les députés qui étaient là et moi j'étais accroupi avec René devant un moniteur de télévision. Il y a des photos d'ailleurs qui ont été publiées à cette occasion-là. Nous n'avons pas été surpris, hein. Pas été étonné plutôt.
Mais on a dit que M. Lévesque l'avait été.
Non. Non. Alors, écoutez, ce qu'il a dit là, quand le général a dit vive le Québec libre, il s'est tourné vers moi et il dit baptême qui va vite. C'est tout. Mais avant cela, le général de Gaulle, quand il est arrivé, il est descendu du Colbert, il s'est adressé en disant au gouverneur général du Canada, je salue le gouverneur général du Canada, le Canada dans son ensemble, et le Québec en particulier, monsieur le Premier ministre, mon ami Johnson, etc. Ça a commencé comme ça. Le dîner au Château Frontenac, la France ne se pardonnera jamais cet inconsolable abandon du peuple québécois. Sainte-Anne de la Pérade, vous avez l'avenir devant vous parce que vous êtes désormais vous-même. Mais le général a dit en d'autres mots, vive le Québec libre une dizaine de fois lors de sa fameuse randonnée de Montréal, de Québec à Montréal.
Mais on a dit qu'il y avait un malaise à l'égard de cette déclaration qui pouvait paraître une déclaration un peu du colonisateur qui vient dire à ses colonies « voici comment faire ». Est-ce que vous n'aviez pas ce sentiment, vous?
Non, absolument pas, et absolument pas. Ça, c'est probablement la presse anglo-saxonne, ça, hein, qui a crié à la colonisation, alors qu'eux nous colonisent depuis déjà deux siècles ou trois siècles. Alors, non, absolument pas. Le général de Gaulle n'était pas... c'était pas dans son genre, hein. Moi, je l'ai rencontré une fois, le général de Gaulle. Et moi, je voulais l'entendre parler, mais finalement, alors tout ce qu'il m'a dit, monsieur le député, je suis un député d'opposition, il dit, monsieur le député, comment va le Québec? Alors c'est moi qui est obligé de parler. Et finalement, non, colonisateur, comment voulez-vous que la France puisse nous coloniser, hein? C'est pas, c'est aller très loin, hein? C'est, les colonisateurs sont à côté de nous, c'est le Canada anglais, c'était les États-Unis d'Amérique. Eux peuvent nous coloniser, mais pas la France.
Mais même monsieur Lévesque semblait ressentir un malaise, disait-on. Voyez, a-t-on dit par la suite à l'égard de cette déclaration?
Certains l'ont dit, mais moi, il ne me l'a pas dit, en tout cas. On a fait de l'interprétation par la suite. Hein. Mais il y a une chose certaine, c'est Jean-Daniel Jorgensen, qui était directeur des Affaires d'Amérique, dans l'avion le ramenant, il a dit, c'est bien mon général. Et le général leur a dit, il fallait que je fasse quelque chose, nos rois les avaient abandonnés. Le général avait une certaine idée de la France, hein. Et puis, le seul rameau, pensez-y bien, là, ceux qui nous écoutent, là, les grandes civilisations anglaises ont créé des rejetons. Les États-Unis d'Amérique, qui sont quatre fois plus importants qu'eux. Alors, au 16e ou au 17e siècle, les Anglais, les Portugais avec le Brésil, l'Espagne avec toute l'Amérique latine, le seul... De l'Empire français, ce qui reste, le seul rameau qui a réussi à survivre à l'Empire colonial français, c'est le Québec. Hein, les boutures ont poussé dans la neige, hein, pendant 6 mois, on les a... c'est quand même assez extraordinaire que nous puissions, après 250 ans, continuer à parler français ici. Hein, c'est un miracle politique, en tout cas, alors qu'il y a 350 millions de parlants américains. Hein.
Alors, cette flamme vous anime toujours.
Et parle anglais.
Nous enchaînons avec la pièce de Verdi. Ça me semble pas très étonnant que vous ayez choisi cette marche des esclaves de l'opéra Nabucco.
Ah ben oui, Garibaldi, qui était le grand libérateur de l'Italie, à chaque fois qu'il avait des conquêtes et qu'il rentrait dans une ville, il faisait jouer, on jouait la marche des esclaves, Va Panchero.
Et pour vous, ça signifie quoi?
Ben, ça signifie la libération d'un peuple.